marche de l'histoire, du lundi au vendredi sur France Inter à 13h30.
Culture.
Conquête. Commerce.
Alliance.
Pacte.
D'autres unions européennes.
L'Europe baroque.
Il faut bien comprendre qu'en Italie, à Turin, à Rome, à Naples, la grande période baroque est celle du XVIIe siècle, tandis que le baroque de l'Europe centrale qui s'en est inspiré ne se développe qu'un siècle plus tard. Selon moi, le baroque a trouvé en Europe centrale des conditions générales particulièrement favorables à son épanouissement. L'essor de la contre-réforme catholique, la puissance des ordres religieux constructeurs d'abbayes et de chapelles, une société à base agraire où se rencontraient des aristocratie très riche et une paysannerie nombreuse, sans qu'il y eût entre elles une classe bourgeoise, de formation plus rationnelle, d'esprit plus positif et moins imaginatif, et qui eût amorti, en quelque sorte, cet épanouissement du merveilleux qu'est le style baroque.
C'était l'un des grands maîtres de la Sorbonne, Victor Lucien Tapier, l'un des rares Français à s'être emparé du sujet, et on l'a entendu faire en peu de mots l'histoire sociale et culturelle du baroque. Le baroque a contralié avec le catholicisme, tel que l'a redéfini le Concile de Trente, après la réforme protestante au milieu du XVIe siècle. Il est l'art qui enseigne sur ses retables les martyrs et le triomphe de la foi. Il peint sur ses voûtes des paysages nébuleux qui laissent passer la lumière. Il élève vers le ciel ses dômes dorés. Mais, ajoute Tapier, cette intelligence du sensible, si particulière, doit cohabiter au XVIIe et au XVIIIe siècle avec le développement de l'esprit rationnel. L'âge scientifique qui s'est ouvert avec Copernic et Galilée fait passer les hommes du monde clos à l'univers infini. Le peintre et l'architecte baroque sont ouverts eux aussi à la vastitude, mais ils ne voient pas le ciel comme la lunette de Galilée. Dans l'espace européen, il y a deux groupes de forces idéologiques et esthétiques qui sont à l'œuvre. L'un où prédomine l'esprit d'abstraction et de raisonnement, et puis l'autre qui préfère l'effusion, l'imagination, le goût du décor et des contrastes. Quand on observe que les contemporains ne sont jamais vraiment contemporains les uns des autres, c'est aussi la question de l'espace géographique qu'on pose. Victor Lucien Tapier insistait sur l'origine romaine du baroque, Urbain VIII, le pape Barberini, le cavalier Bernin, le baldaquin et la colonnade de Saint-Pierre. Il observait que l'Europe centrale constituait aussi un autre épicentre avec ses deux capitales culturelles, Vienne et Prague. Le baroque, c'était sur un marché vaste qui excluait l'Europe protestante mais toucha jusqu'à l'Amérique du Sud, une culture migrante. Mais Tapier était français et la question qu'on lui posait était « Y a-t-il eu un baroque en France ? Pouvait-il y avoir un baroque en France où la patrie du classicisme en était-elle exemptée comme d'une maladie honteuse ?» La question demeure comme un vieux sujet scolaire. Dans le mot « classicisme » français, il y a « classe ».
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Daniel Roche, bonjour.
Bonjour.
Professeur hors classe, professeur émérite au Collège de France en face de la Sorbonne où enseignait Victor Lucien Tapier. Avec Christophe Charles, vous publiez une vaste encyclopédie de l'Europe chez Actes Sud qui a relevé courageusement les éditions Fayard qui avait commandé sans mener le projet jusqu'au bout ce vaste travail. Alors, vous avez fait l'article cheval, on sait que vous êtes un passionné de la culture équestre, vous avez fait l'article barbelé. Et puis, alors, quand est venu cet article central à rédiger, baroque ?
Eh bien, tout simplement parce que dans la confection générale du dictionnaire, nous sommes quand même restés tributaires des grandes catégories qui organisent la culture historienne et historique. Donc nous avions pensé histoire de l'art et au départ dans les catégories retenues nous avons eu classicisme qu'a fait je crois Elisabeth de Culteau et puis baroque. Mais baroque ça a été un tout petit peu plus compliqué parce que l'équipe éditoriale souhaitait qu'un étranger fasse baroque parce que l'on sait que la France n'est pas baroque, comme vous venez de le rappeler, mais on peut en discuter. Et toutes les demandes se sont heurtées à un refus de collaboration pour des raisons tout à fait valables, bien entendu. Alors le résultat, c'est que comme l'article avait été annoncé et présenté, c'est moi qui me suis collé à la tâche comme un bon élève préparant l'agrégation.
Et alors donc vous avez fait l'étymologie du mot, comme un bon élève préparant la licence. Ça vient du portugais. Bah, c'est vrai que alors, l'art manuelan à la fin du 15e siècle, au début du 17e siècle, cet art issu des grandes découvertes et qui utilise les cordages, les artichauts protecteurs du scorbut, les encres de marine, c'est déjà baroque, baroco. Mais...
Les historiens d'art et de la littérature recherchent cette origine partout, ils la trouvent dans toutes les langues, mais avec ce qui est intéressant, je crois, et dominant, c'est sa dimension péjorative. C'est-à-dire que le baroque et tout ce qui en découle dans les autres langues, c'est généralement pour désigner quelque chose qui ne va pas par rapport à autre chose. Et plus particulièrement, on fait référence à un domaine extrêmement important de la civilisation culturelle, qu'est la joaillerie. Et la joaillerie, c'est un art à facettes, et les perles et les pierres précieuses y tiennent un rôle considérable. Et une perle baroque, c'est une perle qui cloche, c'est une perle qui a des défauts, et cela renvoie donc que les origines étymologiques renvoient à quelque chose de péjoratif et de dépréciatif, dont toute l'Europe a mis 3 siècles pour s'en défaire et adopter une autre attitude intellectuelle.
Enfin, il y a une origine géographique à Rome, et Rome, c'est la papauté, après la réforme protestante, un peu poussée par l'empereur, convoque un concile, et ce concile donne des règles. C'est pas l'irrégulier comme la perle baroque, c'est la règle, le sacré, sa présence. Alors, on pense au Bernin, la colonnade de Saint-Pierre, le baldaquin de Saint-Pierre. Dominique Fernandez, vous tolérez qu'on l'entende ?
Tout à fait, bien sûr, c'est
pourtant
un plaisir.
C'est un historien irrégulier, mais enfin, il aime beaucoup le baroque, et le voici qui décrit une fontaine centrale à Rome qui date de 1574.
C'est un art de rue, le baroque, essentiellement. C'est plus que des tableaux, c'est des fontaines, des palais, des escaliers. Ça correspondait à l'esprit romain de fantaisie, de irrationnel. Baroque, c'est l'art d'illusion, la métamorphose, de la prolifération, du mélange des genres. La fontaine des fleuves, par exemple, qui place Avon, l'endroit le plus connu de Rome. Mais la fontaine des fleuves, vous savez, il y a un bassin, dedans il y a un tatou des Indes, un crocodile, un éléphant, un palmier, enfin, des choses exotiques. Et puis des faux rochers qui ont l'air de vrais, et puis un obélisque, et puis de l'eau qui coule, qui transforme tout ça à vue d'œil. C'est extraordinaire, c'est une espèce de fantasmagorie. Et puis il y a les 4 grands fleuves de l'époque, c'est-à-dire le Nil, le Gange, le Rio de la Plata et le Danube, qui sont des hommes, comme ça, des grandes statues d'hommes. C'est vraiment une imagination baroque.
Dominique Fernandez au micro de Toufik Hakem. Oui, l'Europe protestante devient inaccessible à Rome, mais il reste toutes les terres qui n'ont d'aucun homme été foulées, toutes les mers qui n'ont d'aucun homme été fendues, et puis le Gange, le Nil, l'Inde de Saint-François Xavier, tout ça doit être conquis.
La présentation de Fernandez nous oriente définitivement vers le baroque, catégorie esthétique à application diversifiée dans tous les azimuts, caractérisé essentiellement par la fantaisie et la non-intellectualité, ce qui me semble être totalement à côté de la plaque. Il faut essayer de comprendre le baroque de l'intérieur, c'est-à-dire comment un espace esthétique qui a répondu à toutes les règles rigoureuses de la redécouverte de la renaissance intellectuelle, le rationalisme mathématique en plus, est capable d'avoir besoin d'une dimension sensible, d'une dimension décorative et d'une dimension d'incertitude qui a en quelque sorte été le moyen de faire passer dans les mœurs une partie de la discipline que le concile que vous évoquiez en entrée avait mis plusieurs années à élaborer.
Un art politique, un art pourtant de crise, c'est comme ça que vous titrez votre article. Tant de crises, c'est la crise avec la réforme protestante, et puis la violence devient légitime dans les guerres de religion. Je vois que vous n'aimez pas beaucoup Dominique Fernandez, vous aimez bien Paul Claudel.
J'aime sans aimer, c'est-à-dire je ne fréquente pas beaucoup, mais ça c'est une question de tradition politico-culturelle.
Alors on va vous remettre en mémoire le premier acte du soulier de satin. Alors nous sommes avec un père jésuite, les jésuites c'est très important dans l'expansion du baroque, dans un temps de violence, le pont du bateau qui fend les mers est couvert de cadavres entassés les uns sur les autres, et puis un seul homme, chrétien, parmi les chrétiens, survit.
Au tronçon du grand mât est attaché un père jésuite. C'est lui qui va parler. Écoutez bien. Et essayez de comprendre un peu. C'est ce que vous ne comprendrez pas, quel plus beau. C'est ce qui est le plus long, qui est le plus intéressant. Seigneur, je vous remercie de m'avoir ainsi attaché. Et aujourd'hui, il n'y a pas moyen d'être plus serré à vous que je ne le suis. Et j'ai beau vérifier chacun de mes membres, il n'y en a plus un seul qui de vous soit capable de s'écarter si peu. Mais la croix où je suis n'est plus attachée à rien. Elle flotte sur la mer. La mer libre à ce point où la limite du ciel connu s'efface, et qui est à égale distance de ce monde ancien que j'ai quitté et de l'autre nouveau.
Serge Maggiani, dans la mise en scène que vous n'avez pas vue, vous devriez le regretter, Daniel Roche, d'Antoine Vitesse. La croix qui flotte sur la mer, vous voyez, la croix qui flotte, c'est ce que vous ne comprendrez pas qui est le plus beau. Alors vous allez dire que j'ai une interprétation esthétisante du baroque, mais là on est en plein dans le baroque.
Oui, parce que ce qui a fait en quelque sorte la gloire extensive et esthétique du baroque, c'est sa capacité à s'adapter à plusieurs types de civilisations. On parle de Rome, mais il ne faut pas oublier dans le fait que le point de départ du centre de la chrétienté et de l'action des papes est aussi un grand acte politique, et que Rome est un modèle politique. La monarchie romaine est un des exemples par lesquels les autres monarchies se définissent. Donc ce qui est intéressant dans la gestion du baroque, dans son expansion, ce qui va lui donner toute cette résonance sensible qu'évoque si bien Fernandez, c'est sa capacité à s'adapter à des territoires différents, depuis le centre même de l'Europe, dans des pays où on n'aurait peut-être pas pensé aller trouver un écho totalement différent de la résonance romaine, jusqu'aux territoires coloniaux, jusqu'à l'extension portugaise et espagnole aux colonies, où là va se reposer tous les problèmes de la réinterprétation que l'on rencontre sur le territoire européen. Ça n'est pas tellement différent, Serge Grusinski l'a montré à plusieurs reprises.
Culture pour tant de crises, dites-vous dans votre article baroque de l'Encyclopédie de l'Europe qui vient de paraître aux éditions Actes Sud. Tant de crises, c'est aussi le passage, grâce à la lunette de Galilée, grâce aux découvertes des astronomes et des grands savants rationalistes, du monde clos. Parce que c'est encore un monde clos quand même que celui de Paul Claudel, du soulier de satin, du jésuite, à un monde infini.
Infiniment parce que ouvert.
Le ciel tel que le voit Galilée, c'est pas le ciel tel que le voit le jésuite. Grande continuité dans notre émission, encore une mise en scène d'Antoine Vitesse. La vie de Galilée, avec Roland Bertin dans le rôle de Galilée, la pièce de Brecht.
Tout a commencé avec les bateaux. De mémoire d'homme, il n'avait fait que ramper le long des côtes Et soudain, ils les ont délaissés pour s'en aller par toutes les mers. Sur notre vieux continent, une rumeur est née, il y aurait d'autres continents. Chaque jour connaît sa découverte. On avait toujours dit que les astres étaient fixés sur une boule de cristal pour qu'ils ne puissent pas tomber. Eh bien maintenant, nous avons pris courage et nous les laissons en suspens, dans l'espace, sans soutien. Ils prennent le large, comme nos bateaux, sans soutien, au grand large. Et la Terre roule joyeusement autour du Soleil.
Daniel Roche, c'était tout à fait ce que vous
dites
là.
Tout à fait convaincant, hein, bien sûr.
Simplement, là, c'est votre monde.
Cela, en quelque sorte, nous projette immédiatement dans l'ensemble de l'univers, alors que je crois que l'une des résonances principales de la culture baroque, qui ne fait pas l'essentiel de la civilisation du moment, laquelle est plus divisée et plus partagée, l'essentiel de cette civilisation va trouver en quelque sorte son premier écho, son principal objectif, dans les classes rurales qui sont évidemment les victimes d'une crise. Et c'est l'un des grands paradoxes de cette période historique, c'est qu'elle est traversée de la fin du XVIe siècle à la première moitié du XVIIe siècle, tout entier, avec les grands traités de la première moitié du XVIIe siècle, la pacification s'imposera, elle est traversée par des crises incroyables et l'on a peine à imaginer comment, en quelque sorte, la société a pu trouver une image aussi extraordinairement développée dans la diversité, dans l'adaptation au lieu, mais en même temps dans l'imagination, à travers toute l'Europe. Alors c'est pourquoi, si vous voulez, l'une des grandes difficultés de la question est de comprendre pourquoi il n'y a pas une synchronie immédiate du phénomène et de la même façon partout à cette époque.
Parce qu'il y a Galilée à Rome, et puis parce qu'il y a dans Galilée le duché de Savoie, qui est maintenant en France, il y a les petites chapelles baroques paysannes.
Oui, et si Galilée est ce qu'il est, il n'est pas non plus entendu immédiatement dans toute l'Europe de la même façon. Et les cercles qui supportent Galilée, ces groupes d'amis dont Rovere vient de rendre d'une façon romanesque l'image éblouissante avec la clientèle de Spinoza, cette Europe, elle est extraordinairement baroque parce que la diversité scientifique et la diversité des approches pour comprendre le monde est née dans une multitude de milieux, mais a entraîné aussi des attitudes différentes dans le domaine de l'art décoratif.
Multitude de lieux, les artistes du baroque sont, dites-vous, des migrants. En témoignent les musiciens. Alors, les Scarlatti forment une dynastie. On aurait pu choisir d'entendre un opéra d'Alessandro Scarlatti. Mithridate ou un final du prisonnier fortuné à cette voix. Mais il y a un fils qui s'appelle Domenico Scarlatti et qui lui est un vrai nomade. Hein. Naples, Venise, aidez-moi, Florence.
Madrid après.
Madrid.
Et le grand moment, c'est quand même espagnol. Ouais.
Et ibérique même, parce qu'à un moment, il y a Lisbonne. Eh bien, voici, interprété par Andrea Steyer, une des innombrables sonates pour clavecin de Domenico Scarlatti. Thank you.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
L'Europe baroque, avec Daniel Roche qui, en compagnie de Christophe Charles et de beaucoup d'autres auteurs, a piloté une grande encyclopédie chez Actes Sud d'histoire de l'Europe. Le mot baroque est souvent utilisé, disiez-vous, de manière péjorative. Musique baroque, ça n'a pas de tonalité péjorative aujourd'hui.
Non. Et depuis quand parle-t-on de musique baroque, finalement ? Dans mon enfance, on n'en parlait pas du tout. On parlait de la musique classique. Et puis, tout d'un coup, sont arrivés sur la scène du théâtre musical et de l'interprétation personnelle, les baroqueux. Donc, la musique baroque, ça va d'abord être une façon d'exécuter une musique qui correspondait à un temps et qui était celui d'une grande diversité. Est-ce que Bach est baroque ? Bien sûr, Pierre Chaunu en fait l'apogée de la musique baroque. Mais où a été, par exemple, écrite la messe en si de Jean-Sébastien Bach ? C'est une œuvre catholique et elle est écrite chez un électeur luthérien, ce qui donne toute son sens de complexité spirituelle à une musique qui, pour nous, maintenant, est caractérisée par une manière d'exactité autre.
Parce que, jusqu'ici, vous vous écoutant, je pensais que le baroque était marqué par des frontières de catholicité. Il peut être poreux et toucher peu ou prou des protestants. Et alors, est-ce qu'il touche les catholiques français qui tiennent le pouvoir en France? Alors ça, vous allez me dire que c'est une question de cours, une question scolaire?
Non, je pense que c'est d'abord une question de propagande politique. Lorsque la classe dirigeante et sociale de la France voit arriver le nouveau roi, il y a toute une mobilisation à travers tout le système des arts pour donner ce qui va être à la hauteur de la nouvelle monarchie.
Celle de Louis XIV.
Celle de Louis XIV, le jeune roi, dont toute une partie de l'activité se consacre en des fêtes qui sont totalement baroques. Lorsqu'il se déguise en indien ou en magistrat musulman ou en tout ce que vous voulez, lorsqu'il monte à cheval dans des carrousels complètement ahurissants et incompréhensibles pour nous, c'est de la fête baroque. Et nous sommes dans un milieu où les grands classiques sont en train de réfléchir aux règles et où Monsieur Boileau va commencer à édicter ce que doit être la grande littérature classique. En même temps, les Français ont besoin des Romains, donc ils les font venir à Paris. C'est à ce moment-là que se passe le grand épisode du Bermain.
Ah, on vous attendait à ce tournant, Daniel Roche. C'est quand même ça, une figure rhétorique de l'enseignement de l'histoire de l'art. Le Bernin, c'est l'homme de Saint-Pierre, la colonnade, le baldaquin, je l'ai dit plusieurs fois.
Les loggias, qui auraient fait de la façade du Louvre.
Et alors voilà, il est appelé pour réaménager le Louvre qui est en travaux. C'est un monsieur déjà âgé, hein, il a mon âge à cette époque-là.
Sur la fin du mois de mai 1665, le roi étant à Saint-Germain-en-Laye, l'on eut nouvelle à la cour que le cavalier Bernin était arrivé en France. Et il se répandit un bruit que sa majesté lui avait fait donner à Rome, avant qu'il partît, 3000 pistoles.
Danica Jijovic, donc l'arrivée du Bernin à Paris, c'est un événement parce qu'il est reçu comme un prince. Louis XIV a demandé instamment à ce qu'il vienne, en principe pour réaliser toute une partie du Louvre.
Oui, c'était un triomphe dans la carrière du Bernin et l'admiration du Bernin envers Louis XIV est très grande. Louis XIV d'ailleurs admirera tous les plans du Bernin qu'on lui montrera. Mais par contre, dans l'entourage de Louis XIV, on est beaucoup moins favorable au Bernin. Colbert pense à l'architecture, mais quand il pense à l'architecture, il pense au logement des officiers, il pense à la sécurité du roi, il pense à des points qui sont très précis et très pratiques. Et le Bernin, lui, pense construire loggia, galerie, salle de spectacle. Il pense à la beauté, à l'image, qui est une image royale que doit donner ce palais. Mais les questions pratiques l'intéressent assez peu. On lui reproche donc les questions pratiques et considérant que l'architecture du Bernin est une architecture qui est là pour plaire au sens et qui est donc d'un ordre moins élevé.
Si au bout de 5 mois, Bernin échoue à convaincre et rentre à Rome, c'est pas à cause d'une supposée opposition du classicisme avec un grand C et du baroque avec un grand B, c'est des mots qu'on n'utilisait pas nécessairement à l'époque, mais les négociations ont buté sur des questions pratiques de disposition des pièces.
On le voit parfaitement dans l'exemple de la statue équestre de Louis XIV. Le Bernin a reçu commande d'une statue du roi à cheval. Lorsque le Bernin livre son objet terminé, ils sont quand même extrêmement, les courtisans et le roi sont quand même tellement déconcertés par l'exagération, si l'on peut dire en quelque sorte, du modèle classique de la statue équestre, qu'on va s'empresser de le ranger au fond du parc de Versailles et de la transformer quelque peu pour qu'elle soit visible. C'est qu'il y a quand même là une coupure de sensibilité qui s'affronte dans l'exécution politique de l'art. Et le Bernin est victime de cette coïncidence entre une nouvelle école qui se cherche, qui va trouver ses règles et qui va les exposer. Toute notre génération a vécu sur le théâtre et la définition des règles pour le théâtre et toutes ces choses-là, alors que toute une partie restait dans l'incertitude. Et c'est ce qui fait peut-être l'unité de l'Europe baroque, c'est les variations de l'incertitude dans les règles, dans l'application des règles et dans le refus des règles.
Je reviens quand même à l'exception française. Alors, on en a donné d'autres raisons. La France s'allie aux protestants, la France peut s'allier aux turcs, la France peut s'opposer au pape avec ce qu'on appelle la tendance gallicane, une église qui soit propre à la France à bien des égards. Vous trouvez ces explications oiseuses?
Non, c'est simplement qu'elles doivent être recoupées avec d'autres. C'est-à-dire que ce n'est pas pour rien que toute une partie de la France janséniste, sans être ralliée à la rigueur romaine, va trouver dans les formes de contrôle et dans les formes d'un catholicisme rigoureux, rigoriste, pas du tout ouvert à la sensibilité baroque, une forme et une manière d'expression que l'on va retrouver dans d'autres domaines.
Mais quand vous parcourez la France, vous voyez les monuments baroques. Alors j'ai cité les chapelles de Savoie, mais c'était pas la France. En France.
Oui.
Il y a des dômes en France qui sont ancrés dans la terre et qui cherchent à pousser vers le ciel, au Val-de-Grâce, à la Vieille Charité.
Peut-être faut-il les chercher dans la propagande d'un certain ordre religieux dont nous n'avons pas parlé jusqu'alors, c'est-à-dire dans les églises jésuites.
Ça avec le soulier de satin.
Si vous regardez
le jésuite.
Si vous regardez un peu l'ornementation des églises jésuites, elle est moins forte et moins développée que dans les églises romaines, mais il y en a quand même un écho et on peut la retrouver dans le décor de quelques palais où les esthètes de l'aristocratie auront été chercher leur modèle chez les architectes italiens.
Et donc, nous avons des églises jésuites en France, Saint-Paul, Jean-Marais.
Il y en a quelques-unes, oui, à Paris, Saint-Paul, mais il y en a aussi en province, à Toulouse, ailleurs. Donc c'est aussi le problème de la dimension des phénomènes que l'on interroge pour en comprendre la synchronie qui est en cause dans cette histoire du baroque, comme d'ailleurs elle pourrait l'être dans cette histoire du classicisme. On a de la peine à trouver les témoins qui se disent baroques.
Et on ne se disait pas non plus classique.
On ne s'est pas dit tout de suite classique.
Merci à vous, Daniel Roche. Encyclopédie d'histoire de l'Europe aux éditions Actes Sud. Avec combien d'articles? Des dizaines et des flopées d'articles.
600,
sur les sujets les plus...
678.
Les plus étranges. C'est bien, vous avez évité le chiffre diabolique auquel vous auriez pu parvenir. L'émission a été préparée par Franck Olivard, Frédéric Martin, Ilinka Negulesco. Et elle était réalisée par Audrey Ripouille avec Charles Leca.